Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. C'est l'histoire d'une baleine qui a ému l'opinion publique le week-end dernier. Une baleine pilote, précisément, qui a trouvé la mort au large des côtes thaïlandaises après avoir avalé, tenez-vous bien, pas moins de 80 sacs plastiques. C'est une histoire triste et pourtant, elle est si banale. Il faut savoir que chaque année, ce sont plusieurs millions d'animaux marins qui sont affectés par la pollution du plastique. Ce qu'on appelle le septième continent, tant cette pollution est massive. On en parle dans le débat du jour, à l'occasion ce vendredi de la journée mondiale de l'océan. Est-ce que face à la situation que l'on vient d'établir, l'action de la communauté internationale est à la hauteur des enjeux? C'est notre question ce soir. Et pour en débattre, Glenn Wright, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur en gouvernance internationale de l'océan à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Face à vous, Ludovic Frère-Escoffier, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du programme Océan au WWF France. Alors les chiffres sont alarmants. Chaque seconde, plus de 200 kilos de plastique se retrouvent dans les océans. J'évoquais à l'instant le septième continent. Il y a dans le Pacifique une mer de plastique dont la surface est trois fois plus grande que celle de la France. Les images, si on les regarde sur Internet, font froid dans le dos. L'ONU affirme que si on ne fait rien, eh bien, il y aura d'ici à 2050 plus de débris plastiques que de poissons dans les océans. On pourrait continuer. Ludovic Frère-Escoffier, comment est-ce qu'on peut expliquer une situation aussi alarmante ?
La situation est vraiment alarmante. Chaque année, il y a plus de 8 millions de tonnes qui sont déversées dans l'océan. Donc l'océan devient une véritable poubelle, que ça soit l'océan mondial avec les différents ces différents océans arctiques, indiens, pacifiques et atlantiques, mais également les mers fermées comme la mer Méditerranée. En fait, c'est une pollution évidemment qui vient en grande partie des terres, 80%. Donc ça veut dire que des déchets sont déversés par les grands fleuves, 90%. De la pollution est déversée par 10 grands fleuves et elle se trouve surtout en Asie du Sud-Est.
Mais pourquoi est-ce qu'on parle plus du Pacifique? On dit que c'est là que se trouve ce septième continent. Pourquoi davantage de Pacifique que les autres mers, les autres océans, même si vous le dites, ils sont également touchés?
Alors tout simplement parce que lorsque la Terre tourne, elle crée ce qu'on appelle des vortex, c'est-à-dire des zones où vont se concentrer de la pollution plastique. On en trouve 5 donc dans l'océan mondial, 2 dans l'océan Atlantique, un dans l'océan Indien et deux dans l'océan Pacifique. Et la petite histoire veut que c'est un navigateur américain qui s'est retrouvé dans une zone de vortex dans laquelle en fait il n'y a pas de vent et il a constaté en fait de ses propres yeux la pollution plastique et il a commencé à alerter la communauté mondiale il y a déjà une vingtaine d'années.
Alors justement, cette communauté internationale, Glenn Wright, je me tourne vers vous. Est-ce que elle sous-estime aujourd'hui le problème justement de la pollution du plastique dans les océans et dans les mers du monde?
Oui et non.
Ouais.
Oui, parce qu'en fait, on sous-estime tout le temps les enjeux et les problèmes avec les aires marins. Et on parle beaucoup dans ces moments sur le plastique spécifiquement. Mais moi, je veux ajouter que voilà, le plastique illustre la pollution des activités humaines terrestres. Mais il ne faut pas non plus oublier l'impact des autres activités, des autres sources de pollution. Par exemple, les engrais agricoles, les eaux usées, tout ça a un impact très fort aussi sur la qualité d'eau dans les océans.
Le plastique n'est pas la seule menace qui pèse sur les océans, sur les mers. En tout cas, ça reste la principale.
Moi, je crois que c'est pas le principal, mais en fait, comme Ludovic vient de dire, tous les écosystèmes sont vraiment connectés. On a un seul océan, donc on a le plastique, on a la pollution, mais tout est connecté en fait.
Ludovic Frère-Escoffier, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? On parle beaucoup du plastique, et c'est vrai qu'on, quand on parle pollution des océans, on entend le plastique. C'est pas la seule menace. La menace, elle est multiple. Qu'il faut quand même souligner d'abord cette dangerosité du plastique qui met 1000 ans à se détruire. Ce sont les estimations.
Oui, ça dépend des produits, mais en fait, la particularité du plastique, c'est qu'on la retrouve au large et absolument partout. C'est-à-dire que vous soyez en Arctique, vous soyez également sur un lac alpin à l'origine d'un fleuve qui va se déverser dans la mer, vous trouvez des micro-fragments de plastique. Donc cette pollution, on la trouve au large. Après, toutes les pollutions dont parlait Gwen, c'est des pollutions qu'on va retrouver davantage en milieu côtier et donc qui vont affecter justement le littoral. Et c'est vrai que cette pollution pollution, comme vous l'avez dit, elle affecte les écosystèmes, la faune, la flore. C'est 1 million d'oiseaux qui ne supportent pas cette pollution plastique, c'est-à-dire qui décèdent, et 100 000 mammifères marins chaque année. Donc c'est énorme en termes de pollution de l'écosystème, et ça a également des conséquences économiques qui sont absolument impressionnante, avec un chiffre annoncé au niveau international de 19 milliards de pertes d'euros par an.
Alors, pour clore un petit peu ce chapitre du constat sur la pollution, je voudrais signaler le rapport que vous publiez précisément ce vendredi au WWF, un rapport dans lequel vous écrivez que la Méditerranée, alors on a cité le Pacifique, mais la Méditerranée, à son tour, écrivez-vous, est en train de se transformer en mer de plastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces révélations que vous faites au WWF?
Oui, la mer Méditerranée a la particularité d'être une mer semi-fermée, et elle représente 1% donc des eaux mondiales, mais 10% de la biodiversité globale de la planète. Donc c'est un joyau en termes de biodiversité, mais elle est 4 fois plus polluée que ce septième continent qu'on trouve dans le Pacifique. Donc c'est tout à fait désespérant de voir une mer semi-fermée qui se transforme en mer de plastique.
Alors la faute à qui? La balle est dans le camp de qui? Des citoyens, des dirigeants politiques? Qui peut agir? Qui doit agir selon vous?
Bah écoutez, il suffit de regarder aussi les chiffres. La France est le 5e pays pollueur de la Méditerranée, après la Turquie, l'Espagne, l'Italie et l'Égypte.
Donc déjà la France mauvaise élève.
La France mauvaise élève. Mauvaise élève également en termes de recyclage. C'est-à-dire que 22% des produits plastiques sont recyclés. Seulement 22%, alors qu'au niveau européen, on est à 30%. Et quand on a des déchets, 50% partent en décharge. Donc finalement, on trouve des fleuves qui vont, donc le fleuve en particulier le Rhône, qui va convoyer un grand nombre de déchets, et également toute la pollution plastique qu'on peut trouver sur le littoral, dans les zones touristiques notamment, puisqu'on a fait un calcul tout à fait intéressant qui montre que avec l'arrivée des touristes, c'est près de 200 millions de personnes chaque année, hein, soit la population de la Méditerranée, c'est 150 millions, donc c'est la première destination touristique mondiale, il y a une augmentation de la pollution de 40%.
Alors Glenn Wright, quelle est la solution? Ludovic Frerescoffi a évoqué le recyclage. Seulement 9% aujourd'hui du plastique fabriqué est recyclé. Quelle solution justement selon vous face à cette pollution massive?
Bah évidemment, faut qu'on utilise moins de plastique, mais ça c'est difficile parce que c'est partout, on utilise le plastique partout. Pour moi, c'est une question de coopération internationale. Donc je ne sais pas si ça veut dire un accord international ou juste le coopération, mais comme j'ai dit, on a une seule option. Donc c'est tous connecté, mais pour le moment, nos politiques ne sont pas si cohérents. Donc c'est une responsabilité collective des États pour travailler ensemble et pour protéger les océans et pour résoudre cet enjeu.
Mais qui doit prendre le dossier en main quand vous parlez d'une coopération? Il faut que ce soit une institution comme les Nations Unies, par exemple. Alors, on va évoquer ce qui se passe, parce qu'il semble qu'on aille justement sur ce plan-là vers un traité international pour la protection des océans. En fin d'année dernière, l'Assemblée générale des Nations Unies a en effet adopté une résolution qui a reçu l'aval de plus de 140 pays, résolution qui prévoit la mise en place d'un traité visant à préserver les 45% de la surface du globe qui sont aujourd'hui recouverts par la haute mer. Est-ce que ce traité, c'est la solution à la pollution des océans, selon vous, au-delà des initiatives ponctuelles qu'on vient d'évoquer, comme le recyclage?
Le problème avec ces négociations qui va commencer en septembre à l'ONU, et ils sont très cadrés en fait. On sait déjà ce qu'on va discuter et on va pas discuter précisément le plastique. Mais évidemment, le plastique et la pollution maritime, c'est important pour les autres enjeux sur le table dans ces négociations. Par exemple, d'avoir un processus pour déclarer les aires marines protégées.
Mais à vous écouter, on a l'impression que le plastique est peut-être pas la priorité parmi les menaces justement qui pèsent sur les océans. C'est en tout cas le premier combat auquel il faut s'atteler.
Bah le problème est que c'est un enjeu national, en fait, pour chaque pays. C'est la responsabilité de chaque pays de gestionner mieux les plastiques, les créations de plastique et le recyclage. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de coopérer. Et c'est en ce sens que la communauté internationale, en 2015, ils ont fait un accord sur les objectifs de développement durable. Et dans ce cadre-là, il y a un ODD 14 qui parle des océans. Donc l'ODD 14 fixe plusieurs objectifs que les États se sont engagés dans ces moments à mettre en œuvre. Par exemple, la lutte contre la pollution, y compris le plastique, évidemment, la lutte contre la surpêche et aussi la création des aires marines protégées. Donc, en termes de négociation pour un traité sur la haute mer, ça c'est assez spécifique en termes de ce qu'ils vont parler, mais je crois que c'est l'ODD 14 et cet agenda international sur le développement durable qui est le forum pour discuter, pour coordonner et ouais, pour traiter cet enjeu.
Oui, mais Ludovic Frères-Escoffier.
C'est vrai que il existe donc ces processus internationaux, hein, donc de l'objectif de développement durable, donc ce début de négociation finalement sur la haute mer. Hein. Mm. Bon, rappelons quand même que la mer, c'est d'abord la mer territoriale, hein, sur 12 000, ensuite la zone économique exclusive où il y a des droits d'exploitation, et ensuite c'est ce qu'on appelle la haute mer, hein, sur laquelle il y a
un vide juridique.
Il y a une convention internationale qui s'appelle la Convention du droit de la mer, mais qui porte essentiellement sur la liberté de naviguer, d'y pêcher, et donc il y a pas d'éléments juridiques pour protéger la biodiversité.
La difficulté de savoir à qui ces territoires appartiennent et pour savoir qui a la main justement pour décider.
Ils n'appartiennent à personne. Et voilà. Du coup, quand il y a des États qui veulent ou des entreprises qui veulent s'accaparer les ressources génétiques, est-ce qu'il doit y avoir des règles? Est-ce qu'on doit mettre des aires marines protégées? Je crois que le
qui
sujet
peut décider sur ce sujet-là justement.
Bah, les pays justement qui se rassemblent. Il a fallu 10 ans hein, pour arriver ouais. déjà à ce début de négociation sur la haute mer. Mais je pense qu'on peut être aussi optimiste, c'est-à-dire que quand les pays sont mis à se sont rendus compte de l'importance du trou dans la couche d'ozone. Vous remarquez qu'on en parle assez peu du trou dans la couche d'ozone parce que ça a été l'exemple d'une convention internationale qui allait très vite. Alors très vite, évidemment, pour les Nations Unies, c'est entre 5 et 10 ans. Mais ils ont interdit les produits qui causaient justement la destruction de la couche d'ozone et très vite, ils ont trouvé des solutions.
Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en marche, selon vous, ben sur ce plan de la pollution des océans?
Pour nous, il faut faire la même chose avec la pollution des océans.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'urgence.
Non, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que le WWF demande donc un traité international contraignant au niveau international. Donc il va falloir travailler dès aujourd'hui avec les États pour voir de quelle façon on intègre justement cet accord contraignant au niveau des grandes conventions internationales.
Sous l'égide de l'ONU ?
Bah, sous l'égide de l'ONU, bien sûr, puisque ça doit être l'environnement concerne, et l'environnement marin encore plus, concerne tous les États. Parce que la pollution n'a pas de frontières. Hein. Une pollution que vous allez retrouver qui va venir finalement du littoral de Golfe de Gascogne ou qui va venir du Sénégal peut se retrouver ensuite en Arctique ou se retrouver dans l'océan Indien. Donc il faut traiter le problème sous la forme d'une coordination multipartite internationale.
Il faut traiter ce problème, il y a urgence, vous dites,
à
le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore cette conscience, il n'y a pas encore eu cette prise de conscience au niveau politique, selon vous?
Elle n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'il y a l'Europe qui a sorti une directive sur les produits jetables et les engins de pêche il y a quelques temps, il y a eu des mesures qui ont été mises en place au niveau français pour, vous le savez bien, les sacs plastiques, mais finalement, ce cri d'alarme que les ONG, en particulier ce qu'on a fait avec le rapport plastique en Méditerranée, il n'est pas entendu de façon assez forte pour que les pays se disent, bon, on se met autour de la table et on va le résoudre, ce problème.
Glenn Wright, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que le problème est sous-estimé aujourd'hui par la communauté internationale?
Je pense que c'est vraiment sous-estimé, bien sûr, et c'est vraiment un problème majeur aujourd'hui, donc c'est très positif qu'on parle de plus en plus dans la communauté scientifique, on va sortir des rapports sur ces questions et vraiment quantifier quels sont les problèmes et proposer des options pour le résoudre. Maintenant, je constate aussi qu'il y a de nombreux pays qui cherchent des façons, des droits pour résoudre ces problèmes en limitant à la source l'issue des matières plastiques qui ne sont pas réutilisables. Donc, à les niveaux Union européenne, on commence de prohiber, par exemple, les sacs plastiques en France, mais pas que en Europe, mais aussi en Kenya ou Seychelles, par exemple.
Il y a énormément d'initiatives, effectivement, à travers le monde. Ouais. Alors, la France s'est fixée comme objectif 100% d'emballage recyclable d'ici à 2025. En Europe, c'est des nouvelles règles qui sont prévues en 2022.
C'est pas contraignant. Alors, c'est une feuille de route. Hein.
C'est un objectif.
Donc, il faut.
Ça peut être c'est la grande différence, selon vous, aujourd'hui.
C'est la grande différence. C'est-à-dire qu'on doit être sur des objectifs contraignants. Hein. C'est ce qu'on va demander. Ensuite, l'économie circulaire, ça existe quand même depuis un certain temps. C'est bien que le gouvernement s'en préoccupe et qu'il fixe un certain nombre d'objectifs. Mais ensuite, il faudrait imposer des taux de recyclage un petit peu plus importants et une collecte également.
Vous êtes d'accord? Le contraignant, c'est vraiment le mot-clé. C'est un petit peu le challenge qui attend la communauté internationale aujourd'hui, ne pas s'en tenir uniquement à des objectifs.
C'est toujours bon d'avoir un accord juridiquement contraignant. Ça veut dire qu'on va vraiment faire quelque chose à résoudre ces problèmes. Parfois, je pense que le processus de l'ONU sont très longs. Donc, par exemple, pour la discussion sur la haute mer, on va passer 2 ans, 4 sessions de 2 semaines pour discuter ces enjeux. Et après, on ne sait pas où on sera. Donc, je pense que c'est bon d'avoir les vraies responsabilités et obligations dans un cadre juridique. Mais quand même, on doit faire quelque chose avant, maintenant.
Alors, et vite. Est-ce que ça peut être justement les citoyens? Parce qu'on a évoqué la prise de conscience politique qui est très lente du côté des citoyens. Il y a de plus en plus d'initiatives qui émergent. Il y a un mouvement sans déchets, par exemple, qui est de plus en plus important. Est-ce que vous croyez justement à l'avenir de ce type d'initiative? Est-ce que ça peut peut-être créer le déclic du côté de la communauté internationale qui tarde, dites-vous, Ludovic Frère Escoffier?
Ouais, avant de répondre à cette question, il y a quand même un agenda politique qui est intéressant, puisqu'en 2020, il y a ce qu'on appelle la convention sur la diversité biologique qui va se dérouler en Chine. C'est l'équivalent de la convention climat, mais qui porte sur la biodiversité et qui va devoir reprendre de nouveaux engagements. Donc ça veut dire qu'il y aura une volonté, il y a une volonté politique pour aller vers des engagements plus forts au niveau de la convention sur la diversité biologique. Et il y aura également l'année prochaine le G7 en France, où on espère bien justement que le sujet biodiversité et nature soit traité. Donc ça veut dire qu'il y a une séquence politique sur laquelle on peut s'inscrire et sur laquelle il peut y avoir une dynamique internationale qui se met en place. Ça, c'est vraiment l'objectif. Ensuite, sur la façon dont on peut changer les choses, avant de passer de l'État à l'individu, il faut passer par le secteur des entreprises, c'est-à-dire par le secteur donc qui produit finalement, c'est ce plastique.
Vous adressez justement dans votre rapport au WWF un message aux entreprises pour qu'elles investissent dans l'innovation et l'éco-conception, c'est ce que vous écrivez.
L'éco-conception, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de plastique qui soit recyclable. Aujourd'hui, il y a 30% du plastique qui n'est pas recyclable. Et on commence à mettre sur la table le principe de responsabilité, ce qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que les entreprises qui mettent du plastique sur le marché, est-ce qu'elles ne doivent pas en assurer la collecte? Pourquoi? Parce que on devrait arriver à 100% de collecte et 100% de plastique recyclé, en réduisant évidemment la production. On a eu un boom de la production de plastique. L'Europe est le deuxième producteur de plastique dans le monde après la Chine. Et donc ça, c'est un boom qui vient surtout des emballages alimentaires, etc., qui ont explosé ces dernières années. Donc il faut trouver des solutions, et les entreprises peuvent être sensibilisées, mais peuvent aussi avoir un certain nombre de réglementations à suivre.
On parle beaucoup agir en amont, donc trouver des alternatives, comme vous dites, au plastique, mais est-ce qu'il faut aussi agir en aval? Est-ce qu'on peut déjà nettoyer ce septième continent? On peut citer l'initiative de la barrière flottante, ce néerlandais qui souhaite développer un système destiné à attraper les débris en plastique. Il dit qu'en 5 ans, il peut vider 50% de la décharge du Pacifique. Vous y croyez, vous, à ce type d'initiative?
Alors, l'initiative, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que l'initiative est intéressante, mais simplement, le problème de la pollution plastique dans cette zone, c'est du microplastique. Donc c'est des fragments de moins de 5 mm. Donc vous pouvez aller mettre votre filet. Déjà, il faut qu'il tienne, parce que dans ces régions-là, quand même, on est au plein milieu de l'océan. Et ensuite, on n'est pas sur une problématique de macro-déchets. Donc attention avec ces chiffres-là. Et en plus, ils ont un effet un petit peu pervers, parce qu'ils donnent l'impression qu'on peut continuer à polluer, qu'on peut continuer à produire, puisque de toute façon, on a une solution. Donc on est dans l'ère des solutions, mais parfois les bonnes solutions apparaissent non adaptées et deviennent des fausses solutions.
Dernière question, Glenn Wright, rapidement, est-ce que justement ces bonnes solutions peuvent notamment être entre les mains du consommateur, tout simplement du lambda?
Je pense que c'est vraiment à les consommateurs, à les États, à les producteurs pour travailler ensemble, en fait, de réduire cette quantité de plastique.
Mais même, est-ce que chacun doit justement avoir cette responsabilité?
Oui, je crois. Pour
c'est
moi,
possible.
Moi, je bois maintenant avec un bouteille de plastique et j'ai honte parce que maintenant, je sais, tu mes collègues à l'Itri, évidemment, c'est pas bon de boire une bouteille de plastique.
Et d'ailleurs, la personne qui vous fait face, Ludovic Frère Escoffier, n'a pas une bouteille en plastique, mais une vraie gourde. Merci beaucoup. Ça, voilà pour clore ce débat. Merci beaucoup à vous deux, Ludovic Frère Escoffier, donc responsable du programme Océan WWF France, Glenn Wright, chercheur en gouvernance internationale de l'océan à l'Itri, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci à Fabrice Viollet qui a réalisé ce débat et merci à Florence Ponce qui l'a préparé. Restez à l'écoute de RFI. Dans 30 secondes, c'est le retour de l'info.